Alors, bon matin à tous. Et bienvenue à tous ceux qui sont par YouTube, je crois. Alors, ça fait étrange un peu, on n'est pas trop habitué avec cette technologie. Mais, par la grâce de Dieu, on va essayer d'en survivre. Moi, ce matin, j'écoutais les nouvelles à LCN, puis c'était intéressant. J'essayais de voir si dans toutes les nouvelles, nous n'étions pas à voir ce matin, depuis 6 heures ce matin, si on était pour parler de l'action de grâce. Puis la seule référence à l'action de grâce que j'ai eue, que j'ai entendue, c'est quand ils ont parlé du long week-end de l'action de grâce. Le long week-end. Et je me suis dit à moi-même, au moins j'ai entendu le mot « action de grâce ». Et c'est un terme qu'on a perdu parce que ça a été institué en 1863 par Abraham Lincoln aux États-Unis, puis nous, en 1857, au Parlement du Canada, on a fait la même affaire. On a adopté ce qu'on appelle l'action de grâce. Et si on recule dans l'histoire juive, c'est une des trois fêtes, la fête des cabanes, des soukottes. Et c'était des fêtes extraordinaires, des semailles, des récoltes. Et vu qu'on a tous des gros jardins, puis on est tous des cultivateurs, on comprend tout ça, hein? C'est la joie de voir la récolte, puis d'être certain de manger cet hiver. Mais malheureusement, en 2020, pour manger cet hiver, on a nos épiceries, nos grands centres d'achat, les légumes viennent de un peu partout dans le monde, etc. Et donc, on a un peu perdu cette joie de cette journée Action de grâce. Et je me suis demandé ce matin si je faisais ma prédication au 19e siècle, au début du 19e siècle, si je dirais la même affaire aujourd'hui. Malheureusement, je suis obligé d'admettre que ça a perdu son piquant. Sinon, c'est des vacances. L'action de grâce, c'est des vacances. Et comme chrétien, ce matin, j'aimerais peut-être nous donner un défi d'embarquer dans cette réflexion ensemble sur une vie, les bienfaits d'une vie libérée et axée sur la grâce. Parce que dans le fond, quand on y pense, être en action de grâce, qui vient 71 fois dans le Nouveau Testament, rendre grâce, action de grâce, c'est omniprésent dans le Nouveau Testament, ça, c'est partout, là, action de grâce. Donc, est-ce qu'on a besoin d'attendre au deuxième jeudi du mois d'octobre pour être en action de grâce comme chrétien? Notre réponse est tout de suite, ben non, voyons Michel, on se réunit à tous les dimanches, puis même le lundi matin, avant d'aller travailler, on peut rendre grâce à Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse ce matin, dans quelques minutes qu'on a, de réfléchir sur ce thème de grâce. Et en vérifiant cette semaine, à plusieurs places, des grands prédicateurs qui ont prêché sur la grâce, des années de temps. Alors, moi, je ne commence pas une série d'un an là, sur la grâce. Inquiétez-vous pas, c'est pas ça que je veux faire. Mais quand même, je vous propose ce matin, comme illustration de la grâce, une histoire. Et si vous avez vos Bibles, tournez dans 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13, c'est 13 versets, une courte histoire de la grâce. Qu'est-ce que c'est la grâce? Qu'est-ce que c'est une action de grâce? Et nous allons lire ensemble cette belle histoire de David et Mephibosheth. Alors, 2 Samuel, chapitre 9, versets 1 à 13. David dit, « Reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? » Il y avait un serviteur dans la maison de Saül nommé Tisba, que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tisba? » Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'a-t-il plus personne dans la maison de Saül pour que j'eusse envers lui de la bonté de Dieu? » Et Tisba répondit au roi, « Il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. » Le roi lui dit, « Où est-il? » Et Tisba répondit au roi, « Il est dans la maison de Machir, fils d'Amiel, à Lodenbar. » Le roi l'envoya chercher dans la maison de Machir, fils d'Amiel, à Lodenbar, Et Mephibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna et dit à David. Et David dit, David dit, Mephibosheth. Et il répondit, « Voici ton serviteur. » David lui dit, « Ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan, ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras toujours à ma table. » Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Je vais répéter. Verset 8. Il se prosterna et dit, « Qu'est ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? » Le roi appela Tisba, serviteur de Saül, et lui dit, « Je donne au fils de ton maître tout ce qui appartient à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras de les récoltes, afin que le fils de ton maître ait du pain à manger. » Et Mephibosheth, fils de ton maître, mangea toujours à ma table. Et Tisba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, « Ton serviteur fera tout ce que le roi, mon seigneur, ordonne à son serviteur. » Et Mephibosheth mangea à la table de David comme l'un de ses fils, comme fils du roi. Mephibosheth avait un jeune fils nommé Mica, et tous ceux qui demeuraient dans la maison de Tisba étaient serviteurs de Mephibosheth. Mephibosheth habita à Jérusalem, car il mangea toujours à la table du roi. Il était boiteux des deux pieds. Ici se termine la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur Dieu, nous voulons remettre entre tes mains ces quelques temps ensemble. Et que tu puisses, Seigneur, parler à nos cœurs par cette histoire réelle de David et Mephibosheth. Que tu puisses, Seigneur Dieu, nous faire comprendre et saisir la grâce, cette action de grâce. Que tu puisses nous faire saisir de la part de Mephibosheth aussi, qu'il rendait grâce à cette bénédiction qu'il a eue du roi. Que tu puisses nous aider, Seigneur Dieu, à apprécier la grâce divine qui vient envers nous. À la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc, quelques observations. Vous savez, je me disais à moi-même, c'est une histoire qui est vraiment belle. Et cette histoire, c'est une histoire classique lorsque on parle de la bénédiction de Dieu, on parle de la grâce de Dieu. Parce que vous savez, à l'époque, les rois, lorsqu'ils prenaient le pouvoir, comme David et tout ça, les rois non juifs, ce qu'ils faisaient, c'est que il tuait toute la famille, hein, il perdait la tête complètement. Donc, Mephibosheth, il était pas mal certain qu'il était pour perdre la tête en arrivant devant le roi David. Mais David a quelque part une nostalgie de sa relation avec Jonathan, fait en sorte qu'il va chercher s'il y a des descendants encore de Saül et Jonathan pour leur faire du bien. Et c'est quelque chose qui démontre, en fin de compte, la définition même de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est un acte non mérité de la part du roi des rois qui fait sur nous. Et c'est à cause de Jésus-Christ que cela arrive. Et c'est pour cela que ça remplit nos cœurs d'action de grâce, de reconnaissance quotidiennement lorsqu'on saisit cette grâce que Dieu nous a faite. Donc, l'intention de David, faire du bien hein, à cause de Jonathan. Belle expression belle histoire qui nous montre, en fin de compte, que Dieu nous a fait du bien à cause de Jésus. Le bien qu'on a, ce n'est pas parce qu'on le mérite, pas parce qu'on est mieux que les autres ou meilleur que les autres. C'est à cause de Jésus-Christ. La grâce de Dieu que nous vivons, que nous subissons dans notre vie, vient du fait que Jésus-Christ a pris notre place à la croix. On voit dans cette ici, c'est la bonté de Dieu, user de bonté de Dieu. La grâce, c'est un geste de bonté envers Dieu qu'on ne mérite pas, comme Mephibosheth. On est tous des Mephibosheth, dans le fond. David dit, « Ne crains point, je vais te faire du bien à cause de Jonathan, ton père, à cause de Jésus-Christ. » Dieu veut nous faire du bien. Dieu nous a graciés. Et la grâce de Dieu nous accompagne. Et comme je voudrais le répéter, Avez-vous remarqué qu'à chaque fois dans le Nouveau Testament qu'on lit cette expression « rendre grâce » ou « la grâce de Dieu », c'est une expression extraordinaire qui nous rappelle le prix de la grâce qui a été payé, qu'on va voir plus tard. Et comme observation qu'on peut dire aussi, « il se prosterna et dit que ton serviteur, qui est ton serviteur, qu'est donc ton serviteur pour que tu regardes un chien mort. » Une expression assez raide, hein, vous savez, tel que moi, un chien mort. Et pour cette culture-là, un chien mort, là, c'est terrible. Hein, c'est le dernier des derniers animaux. Là. Un chien mort. Vous savez, lorsqu'on a expérimenté la grâce de Dieu, on était mort dans nos péchés, nos offenses dans lesquelles on marchait autrefois. Éphésiens nous le rappelle. On était de ceux qui vivaient selon le train de ce monde, ennemis de Dieu. On était des aveugles dans une chambre noire qui couraient après un chat noir. Et la grâce de Dieu est venue éclairer nos cœurs. On a saisi Jésus-Christ. Et Mephibosheth est une belle image de tout cela. Et manger toujours à la table. Et ça, on voit ça plus qu'une fois. Manger à la table du roi. Et vous savez, comme chrétien, il se présente deux tables devant nous. Il y a la table du Seigneur, puis il y a la table du monde. On est appelé à manger à tous les jours à la table du Seigneur, avec le Seigneur, comme Mephibosheth a mangé tous les jours à la table du roi David. C'est vraiment une invitation extraordinaire. Pendant quatre fois, on va répéter cela, manger à ma table. Et cette histoire nous montre aussi que Mephibosheth était à la table de David comme l'un de ses fils, comme un fils. On n'est pas des invités, on fait partie de la famille de Dieu. Comme Mephibosheth faisait partie de la famille de David, comme chrétien, on fait partie de la famille de Dieu. On est des fils et des filles de Dieu. Notre position en Jésus-Christ, à cause de Jésus-Christ. Et on ne mérite rien de tout cela. Et Mephibosheth habita et mangea pour toujours à la table du roi. Quelle belle histoire! Une histoire qui nous fait réfléchir sur la grâce, sur rendre. Et je me disais à moi-même, si on pouvait se mettre dans la peau de Mephibosheth, chacun de nous ce matin, qu'est-ce qu'on dirait à Dieu? Est-ce qu'on aurait des choses à dire à Dieu? On va prendre le repas du Seigneur tout à l'heure, on va prendre ensemble les éléments de ces choses-là. Qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Est-ce qu'on réalise la grâce qu'on a eue de saisir qui est vraiment Jésus-Christ et qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Et cela nous amène, en fin de compte, à cette grâce qui était une grâce commune. Et j'aimerais avoir trois petits énoncés ici, rapidement, parce que c'est important de comprendre que la grâce de Dieu, c'est plus que Mephibosheth. La grâce de Dieu est étendue dans le monde entier. Toute l'humanité reçoit la grâce commune de Dieu. Dieu fait pleuvoir sur les méchants et les bons. Dieu est en contrôle de tout. Et Dieu est là. Et cette grâce, en fin de compte, elle freine temporairement les péchés et lutte contre ses effets néfastes. C'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu fait en sorte que Dieu retarde la destruction de la planète Terre par l'être humain lui-même. Parce que l'être humain est de pire en pire et est en colère contre Dieu, en colère contre tout. Et à quelque part, on est en train de s'auto-détruire nous-mêmes. Mais Dieu va mettre un frein à tout cela par sa grâce. Un peu comme Ninive. Ninive, qui était sur le point d'être détruit. Jonas arrive à Ninive, puis il proclame le salut à l'Éternel. Et Ninive se repentit. Alors Dieu, dans sa grâce commune, a fait en sorte de ne pas détruire Ninive, mais de gracier cette génération. Alors c'est ça la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est quelque chose qui retient l'être humain de pousser à l'extrême de sa destruction. Et Dieu use de patience envers tous, voulant qu'aucun périsse. C'est la grâce commune qui est là, qui vient. Et cette grâce fait un deuxième effet. Elle permet aux incroyants d'apprécier la beauté et la beauté et la bonté de la vie. On écoute des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils aiment la vie, ils trouvent ça beau. Cette semaine, d'ailleurs, à la TV, ils montraient des photos de la nature. Ils montraient des arbres avec les couleurs, les feuilles, toutes sortes de couleurs. Et puis la personne qui commentait cela, elle disait, « Ah, il n'y a rien de... Ah, c'est tellement beau! C'est tellement beau! C'est tellement beau! » Il y en a qui sortent de la zone rouge pour aller dans la zone jaune pour aller voir la beauté des fleurs, la beauté des feuilles, les couleurs, ces choses-là. Et à quelque part, c'est la grâce de Dieu qui fait en sorte que les gens réalisent. Les gens regardent les étoiles, ils regardent la planète, ils regardent les choses. Est-ce qu'ils réalisent c'est la grâce de Dieu? Mais non, ils ne réalisent pas. Mais ils trouvent ça beau quand même, c'est la grâce commune. Et Dieu, dans tout cela, parle à ces gens-là. Et une troisième chose très importante que la grâce commune fait, la grâce commune, elle offre aux pécheurs l'occasion d'entendre l'Évangile, ce qui peut les conduire à la repentance. Au travers de cette grâce qui est lancée partout, Dieu parle par la création, la nature nous parle d'un créateur. Dieu parle par la parole de Dieu. Dieu parle par les croyants. Dieu parle par les chrétiens et Dieu enseigne l'Évangile avec grâce envers ceux qui ne le connaissent pas. Les gens voient la création, voient les animaux. Les animaux, c'est merveilleux. Ils voient des beaux chats, des beaux chiens. À un moment donné, tu vois des bébites qui sont bizarres, mais qui ont une utilité quand même dans la nature. Et j'écoutais un spécialiste sur cela, puis il disait... C'est merveilleux, cette petite créature-là mange des milliers de bactéries, des milliers de petites bébites et tout ça. Puis il expliquait, il était fasciné par la création. Ça parle, et ça parle d'un créateur. C'est la grâce de Dieu qui fait cela. Dieu use de patience, il aime le monde, puis il veut que le monde vienne à la repentance, et Dieu use de patience. Et voyez-vous, ça nous amène ici, lorsqu'on entend l'Évangile par la grâce de Dieu. Nous sommes ici à cause de la grâce de Dieu. C'est la grâce irrésistible de Dieu. C'est qu'en entendant la grâce de Dieu, en entendant l'Évangile, en étant touché par la grâce de Dieu, à quelque part, il y a une illumination qui se fait en dedans des cœurs des êtres humains. Et on réalise que la grâce de Dieu, c'est la source du salut des hommes. C'est la source. La grâce de Dieu qui permet que l'Évangile soit annoncé est la source de salut pour tous les hommes. Et il y a tous ces versets qui vont entrer en ligne de compte dans la Bible. Ces versets, comme le verset qui dit dans 1 Corinthiens 15, 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. » Si nous sommes ici, mes amis, ce n'est pas parce que nous, on a compris le verset, et nous, on a pleuré quand on a entendu ce verset-là, et nous, on a vécu telle affaire. Non, c'est la grâce de Dieu qui nous a révélé Jésus-Christ. Nous sommes qui nous sommes à cause de la grâce de Dieu. Je suis et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, dit l'apôtre Paul. Mais il est qui il est par la grâce de Dieu. Il n'est pas là parce que c'était un bon pharisien autrefois. Il n'est pas là parce qu'il a eu une révélation spéciale. Il est là parce que c'est la grâce de Dieu qui l'a placé là. Il a entendu la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, il a révélé Jésus-Christ. Il a fait saisir le salut en Jésus-Christ. La grâce de Dieu est... On voit dans Pierre, dit la même chose, il va dire, « Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, le Dieu de toute gloire qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, le Dieu de toute grâce, de toute gloire, la grâce de Dieu qui nous a appelés. » On est de ceux qui sommes des récipients de la grâce de Dieu. C'est-tu merveilleux, ça? Et ça donne assez de nourriture pour s'exciter à rendre grâce à Dieu, puis remercier Dieu quotidiennement. Et réunis ensemble, on remercie Dieu pour tout. Pourquoi? Parce que c'est une grâce imméritée. J'imaginais Mephibosheth là, à la table du roi tous les jours de sa vie. Là. Mephibosheth, là, entre moi puis vous, là, hein, qu'est-ce qu'il faisait quand il arrivait? Il devait te dire, « Hey, merci à David. Avant, j'étais dans mon petit village. » J'étais un perclus des deux pieds, boitait des pieds, un infirme. Et puis, il me prend, puis il m'assied avec ses fils et ses filles, puis je mange à deux tables. J'essayais d'imaginer la conversation de Mephibosheth à la table. Il devait avoir que des louanges pour David, n'est-ce pas? Il devait avoir que des bons mots à dire pour David. Ah, David, il se peigne sur le bon bord. David, il est bon, puis David est fort, puis David est beau. Puis il est capable de tout faire, David. Puis David, il est généreux, puis il est gentil, puis il est miséricorde. Dieu, David, il ne m'a pas tué, il m'a donné la vie, puis là, il m'a béni. J'imagine, là, tous les jours de sa vie, Mephibosheth était rempli. Et c'est l'image qu'on devrait avoir à chaque table du Seigneur, à chaque jour que nous nous levons de nos lits. La reconnaissance envers Dieu. Moi, on prend tout pour acquis, on est tous pareils. Hein? Moi, je dis à Diane, on prend pour acquis. Hein? On prend pour acquis nos autos, on prend pour acquis notre santé, on prend pour acquis notre maison, on prend pour acquis notre salaire, c'est un droit. On prend pour acquis telle, telle chose. On prend pour acquis notre liberté, mais là, vois-tu, notre liberté est comme amoindrie un petit peu, là, présentement. Ah, hein? On ne fait plus ce qu'on voulait, là. Mais par la grâce de Dieu, on peut faire quand même. On peut être ensemble quand même par les médias. Ici, à l'Assemblée, on est 25. On suit la loi. On peut être quand même ensemble. Donc, c'est une grâce de Dieu parce que, écoutez, je dis souvent, Dieu aurait pu débrancher l'univers comme nous, nous débranchons une télévision, on débranche une TV, puis il n'y a pas un mot, il n'y a pas personne qui a un mot à dire. Mais la grâce de Dieu s'est manifestée en Jésus-Christ, source de salut pour tous les hommes. Un troisième verset, rapidement, c'est la grâce, car c'est un verset qu'on utilise souvent, non, n'est-ce pas, lorsqu'on parle du Seigneur, c'est par la grâce. Ce n'est pas par mes bonnes œuvres, ce n'est pas par mon intelligence, ce n'est pas par qui je suis, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est une grâce. Vous savez, j'emploie souvent la phrase, est-ce qu'on demeure émerveillé de notre grand salut? Si vous perdez l'émerveillement de votre grand salut, là, c'est un drapeau rouge qui se lève dans notre vie, dans ma vie, dans nos vies. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas lorsqu'on perd l'émerveillement de notre salut. Parce qu'on ne mérite pas, comme Mephibosheth ne méritait pas d'être à la table. Il méritait de perdre la vie, de se faire couper la tête, comme toute la tradition voulait dans ce temps-là. Mais c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et le moyen, c'est la grâce produit la foi. La foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors, cette parole qui vient à cause de cette grâce commune que nous avons, qui spécifiquement touche les cœurs de certains qui rouvrent la porte parce que la poignée est par en dedans. Responsabilité humaine. Et Dieu, dans sa grâce, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don gratuit de Dieu. Est-ce qu'on a assez pour s'émerveiller ou on prend pour acquis notre salut en Jésus-Christ? Et c'est ça la vraie question de l'action de grâce pour moi. Pourquoi l'action de grâce? Pourquoi ça ne serait pas 305 jours par année, l'action de grâce? Pourquoi est-ce que je perds l'émerveillement de mon grand salut? Quand je parle de même, parce que j'ai peur pour moi-même. Moi-même, j'ai déjà perdu l'émerveillement de mon grand salut. C'est pour ça que j'en parle souvent, parce que je trouve que je ne veux plus le perdre, l'émerveillement de mon grand salut. Je veux être toujours excité de l'Évangile, toujours excité de la bonne nouvelle. Ça m'excite, la bonne nouvelle. Ça m'excite partager cette bonne nouvelle. Ça me fait du bien. Parce que lorsque je perds mon émerveillement de mon grand salut, ce qui arrive là-dedans, c'est que je tombe triste. Puis je prends tout pour acquis. Mon salaire, ma santé, le manger que je mange, je prends tout ça pour acquis. Alors, pour moi, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, est attachée à ma manière de percevoir et de rendre gloire à Dieu, remercier Dieu, donner de gloire à Dieu et aller de l'avant avec de la reconnaissance dans mon cœur. Seigneur, merci. Quand on prie pour la nourriture, est-ce qu'on le fait par habitude, le plus vite possible, parce qu'on a faim? Moi, je suis gourmand quand je sens la nourriture. Là. Pensez à ça, vous allez voir. Je le fais par tradition pour que les autres me voient prier. Et je prie vraiment parce que c'est une grâce. Parce qu'il y a du monde qui crève de faim sur la planète Terre en 2020. Hein? Vous savez ça, hein? Vous l'avez. Il y a du monde qui crève de faim. Il y a du monde qui n'a pas de maison. Il y a du monde qui n'a pas de salaire. Il y a du monde qui n'a pas de bras. Il y a du monde qui n'a pas de pieds. Il y a du monde qui ne voit pas clair. Et puis, la liste est longue, vous savez comme moi. Hein? La liste est longue. Alors, et une autre histoire que je pensais cette semaine, je pensais au voyage du pèlerin 1678, ramoneur de cheminée. Il parle avec le portier. Puis regardez, ici, j'ai mis une citation. Le portier, il dit, « Quel est ton nom? » Et Pèlerin répondit, « Je me nomme maintenant chrétien. » Ah oui? Tu dis chrétien, là, maintenant? Oui, oui, mais auparavant, là, je me nommais privé de la grâce de Dieu. Et c'est ça la différence entre un croyant et un non-croyant. Le croyant, il dit qu'avant, j'étais privé de la grâce de Dieu, tandis que l'incroyant ne voit pas la grâce de Dieu du tout, du tout, du tout, du tout. Je n'ai pas entendu un commentateur dire « Remercions Dieu pour au moins que tout le monde n'est pas mort d'un coup à cause de la COVID. » Parce que ça aurait pu être ça. Ça aurait pu être une sorte de virus. Là, que tu meurs direct sur le trottoir quand tu l'as. Mais non, on a un temps pour se virer de bord. C'est la grâce de Dieu, ça, qui permet ça. Dieu est en contrôle, mes amis. Il ne faut pas se croiser la tête. Alors, 4 propositions concernant la grâce, j'aimerais partager avec vous. J'ai 5 requêtes de prière. Fait que c'est pas d'en avoir un peu trop, mais en tout cas. 4 propositions. Première proposition, c'est gardons-nous des extrêmes si nous voulons jouir de la liberté de la grâce, que la grâce procure. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je me laisserai asservir par quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, 12. C'est garder des extrêmes. Et la grâce de Dieu. Allons-nous demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, Romains 6, 1 et 2. Parce qu'il y a ce raisonnement-là qu'il faut guetter aussi. Ah! J'ai la vie éternelle, je suis scellé par le Saint-Esprit, je ne peux pas perdre mon salut. Il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, Romains 8, 1. Alors, on va vivre dans le péché, je suis gracié pareil. Attention! Attention, ce n'est pas la mentalité d'un chrétien. Donc, comme chrétien, il faut éviter les extrêmes. Prendre la grâce pour acquis, puis faire vivre comme le dernier ou la dernière des vauriens, ou vauriennes, excusez, quelle expression. Ou, avant de faire la grâce, je vais me poser des questions. J'en ai 10 ici. Avant d'agir, trouver l'équilibre spirituel, je vais me poser une question avant d'agir, avant de parler, avant de faire des choses. Je vais me poser la question, est-ce que c'est spirituellement profitable pour moi ce que je vais faire, ce que je vais dire? Est-ce que ça va me faire grandir dans le Seigneur? Est-ce que je vais devenir plus mature dans le Seigneur à cause de sa grâce, de son amour envers nous, à cause de mon discernement spirituel? Est-ce que ça va ralentir ma vie chrétienne, ce que je dis, ce que je fais, avant d'aller dans les extrêmes? Parce qu'on est porté dans les extrêmes, mes amis. Que ce soit dans la religiosité, au bout, ou prendre pour acquis, au bout, on est tiraillé dans les extrêmes. Il faut aller dans l'équilibre spirituel. Va-t-on développer une dépendance avec les choses que je dis ou ce que je fais? Attention, comme chrétien, on est des humains aussi. On a une prédisposition au mal, facile. Voyez-vous? Est-ce que je vais hypocritement couvrir mon péché par des agissements ou des paroles? Je vais paraître chrétien le dimanche matin, puis le reste de la semaine, je vais vivre n'importe comment. Voyez-vous, la grâce de Dieu nous pousse à avoir un cœur repentant, un cœur qui admire Jésus-Christ, qui accepte Jésus-Christ et qui veut ressembler à Jésus-Christ. La seigneurie de Jésus-Christ dans ma vie est-elle attaquée parce que je fais ce que je dis? Est-ce que Christ est encore mon Seigneur puis mon Maître? Est-ce que ça va aider quelqu'un d'autre, ce que je dis, ce que je fais dans ma vie? C'est la grâce de Dieu, ça. Manifester, rendre grâce. Parce qu'on veut susciter des actions de grâce. On veut rendre grâce à Dieu pour toute chose. Et notre vie est influencée par tout cela. Parce que toute la vie chrétienne est axée. Vous savez, un axe, tout tourne alentour de la grâce. Ça tourne alentour. C'est pas la grâce, elle est là, puis le reste des affaires, l'autre bord. C'est un axe, la grâce est un axe sur lequel tout va tourner, tout va aller. Est-ce que c'est conséquent ce que Jésus enseigne? Ce que je fais, ce que je dis? Mais la grâce de Dieu, Mephibosheth, laissez-moi vous dire quelque chose. Quand David disait, si David aurait dit à Mephibosheth, même pas du train quand tu manges ta soupe, bien, il n'aurait pas mis de train quand il mangeait sa soupe. un exemple. Mephibosheth prenait au sérieux ce que David disait. Dieu va-t-il être glorifié? C'est le dixième. Et gardons-nous des extrêmes si nous voulons jouir de la liberté que la grâce procure. Parce que la grâce, prenons-la pas pour acquis, ce n'est pas une petite affaire, ça, mes amis. Récipient de la grâce de Dieu, réalisez cela. Vous êtes les fils du roi des rois, du Seigneur, vous avez été choisis, sauvés, scellés par Jésus-Christ. Quel privilège! Deux, c'est considérer la grâce comme un privilège immérité et non un droit dans la vie de tous les jours. Et ça, je ramène mon image de Mephibosheth dans 2 Samuel 9-8. Il se prosterne devant David et dit que ton serviteur, qui est ton serviteur, pour que tu le regardes comme un chien mort tel que moi. Mes amis, devant le trône de grâce, là, on est tous petits. Notre petitesse, là où on doit la ressentir le plus, c'est quand on se présente devant le trône de grâce. On ne mérite absolument rien. Arrêtons de penser qu'on mérite ceci et qu'on mérite cela. Moi, j'ai lu ma Bible tous les jours, je mérite ça. J'ai déjà entendu quelqu'un prier qui avait perdu sa job. « Seigneur, pourquoi que j'ai perdu ma job? Mon voisin, il bat sa femme, il bat ses enfants, puis c'est un ivrogne, puis lui, il travaille avec moi, puis il n'a pas perdu sa job. Moi, je viens à chapelle 3 fois par semaine, le mercredi, dimanche matin, dimanche soir. » C'est des vraies histoires, ça. On ne mérite rien. On est qui on est par la grâce de Dieu. Et à quelque part, lorsqu'on perd de vue qu'on ne mérite rien, c'est une grâce. Ça déclenche une sorte de « j'ai le droit d'avoir ça, moi ». Moi, j'ai prié pour ça, je dois l'avoir. Moi, ce n'est pas correct que j'ai de mal au dos, j'ai de mal aux dents. Écoutez, à quelque part, on ne mérite absolument rien. C'est une grâce que Dieu nous a faite. Et c'est important. Troisième, rapidement, rappelons-nous que même si la grâce nous a été accordée gratuitement, notre Sauveur a dû payer de sa vie. Et ça, j'ai mis l'image que j'ai trouvée du sacrifice de Jésus-Christ. On n'a pas été racheté par de l'argent ni de l'or, mais par le précieux sang de Jésus-Christ. La vaine manière de vivre. C'est important, là. De la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. Cette nature pécheresse qu'on a hérité de nos pères. On a été rachetés par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus-Christ qui a été versé à la croix, qui a payé la dette de nos péchés. C'est une grâce. Et mes amis, c'est quelque chose d'important de se rappeler tout ça. La grâce, oui, le salut est gratuit. La grâce de Dieu, c'est pas mérité, puis c'est pas acheté, c'est un cadeau. Le mot lui-même le dit. Une grâce, c'est un cadeau. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a quoi? Donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la grâce de Dieu qui est donnée. Mais il y a quelqu'un qui a payé. Quand vous achetez un cadeau à quelqu'un, vous l'avez payé. Mais la personne qui le reçoit ne paye rien. Et souvent, elle ne le mérite même pas. « Ah, oh, t'as été obéissant toute l'année, t'as été gentil toute l'année. » Aïe, aïe, voyons donc. T'as un cadeau parce que t'es ici puis t'es ça. Ouais, tu ne mérites pas. Je fais un cadeau parce que je t'aime. Puis je dois te faire des cadeaux tous les jours. Mais j'ai pas assez d'argent pour ça. Fait que je le fais une fois par année, une fois, deux fois. Des fois, deux fois par année. La grâce de Dieu. Il y a quelqu'un qui a payé, mes amis. Et ça devrait susciter de l'admiration. Ça devait nourrir le repas du Seigneur de louange, d'action de grâce, mes amis, ces choses-là. Quatrièmement, la grâce attire l'attention sur ce que Dieu est et ce qu'il a fait et la détourne de nous-mêmes. On n'est pas là ensemble pour se péter les bretelles les uns les autres. On est là ensemble pour péter les bretelles de Dieu. Parlez de Dieu. Attirer l'attention sur Dieu, ce qu'il est dans ses attributs moraux, non moraux, ce qu'il a fait dans ce qu'il a fait pour nous. On est là pour ça. On est là pour ça. Quelqu'un me disait, « Ah, moi, je ne sais pas quoi dire à la table du Seigneur là, quand c'est le temps de partager. Je ne sais pas quoi dire. » Mais parle de Dieu. Qu'est-ce que tu sais de Dieu? Mais Dieu est grand, oui, mais dis-le. Si tu veux en savoir plus, tu peux lire ta Bible un peu plus, puis tu vois, ça va coller à un moment donné. Là. Ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'a fait Dieu? Jésus est venu, il est incarné, il est né de la Vierge Marie, il a marché sur la terre, puis il est mort pour mes péchés, puis il a pris sa justice, puis il en a fait ma justice, puis il a pris mes péchés, puis il en a fait ses péchés, puis il a pris ma place, 2 Corinthiens 5, 17. On est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et les 6 prochains mots, c'est tout et tout, cela vient de Dieu. Ça, la grâce! La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Ça devrait nous mettre en feu. Il faut s'exciter à l'amour et aux bonnes œuvres les uns aux autres, les uns les autres. Qui nous conduit à l'action de grâce. Qui nous conduit à l'action de grâce. Et qu'on est si souvent centré sur notre nombril et nos besoins. On oublie de remercier Dieu. Merci Dieu qu'on est en vie aujourd'hui. Remercie Dieu qui s'en vient bientôt nous chercher. Remercie Dieu qui a un plan pour la planète Terre. Remercie Dieu qui n'est pas dépassé par les situations qu'on vit, qui conduit à l'action de grâce. Et je vais terminer ici, je viens de voir, il y a un petit signe. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ce petit verset de Thessaloniciens, souvent, les superlatifs, il faut les employer quand ça concerne Dieu. Les superlatifs concernant les humains, c'est difficile. Rendez grâce en toutes choses. OK? Toutes choses. Ça serait quoi? Il y aurait toute une liste qu'on pourrait faire. Vous avez vos choses, j'ai mes choses. Car c'est la volonté, c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Vous cherchez la volonté de Dieu. Des gens disent, c'est quoi la volonté de Dieu? J'aimerais ça connaître la volonté de Dieu. Mais c'est simple. Commence par remercier Dieu pour toutes choses. Reconnaître que Dieu est le donateur de toutes choses. J'ai entendu un homme prier une fois, puis je dis souvent ça dans ma prière, malheur pas. Seigneur, tu es le donateur de toutes choses. Je te remercie pour ce repas-là. Tu sais, pensons-y, là. Le miracle des sommeils, hein, c'est l'action de grâce. Si on regarde à l'origine, là, hey, c'est tout en affaire. Le pain qui sort de la terre, pensez à ça, le blé. Les tomates, mes tomates, j'ai eu des tomates cette année, peut-être pas fameux, là, les cocons ne vont pas pousser bien non plus. Mais c'est un miracle, ça. C'est une grâce de Dieu, ça, l'invention, l'écologie, là, c'est Dieu qui a créé tout cela. C'est merveilleux. Donc, on peut se présenter, cinquièmement, les requêtes. On va aller devant les requêtes. Je vais aller rapidement, dans 5 minutes. Implorer la grâce de Dieu afin de rester vrai. Alors, on est qui on est par la grâce de Dieu. J'aime bien ce dessin-là parce que la perception de nous-mêmes est très importante. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, ce que disait Paul. On a vu tout à l'heure. Deuxième chose, implorer la grâce de Dieu afin d'apprendre de mes souffrances et de mes faiblesses. À quelque part, l'apôtre Paul a prié 3 fois pour quelque chose. Il a prié 3 fois. Puis Dieu a dit, « Ma grâce te suffit. » On peut prier des années pour des choses. Puis Dieu répond toujours aux prières. Il dit oui, il dit non, puis il dit attends. Puis au travers de tout cela, il dit ma grâce te suffit. Comme qu'il a dit à Paul, Paul, je ne te guéris pas. Ce que tu vis, là, je ne l'enlève pas de ton trouble. Là. Peu importe le pieu, qu'est-ce que c'est? Il y a des controverses là-dessus. Là, d'accord. Peu importe la longueur du pieu qui est rentré dans ta chair. L'autre pas, parce que ma grâce te suffit. La grâce de Dieu suffit. Souvenons-nous de cela, frères et sœurs, dans nos prières. 3e requête de prière. Implorer la grâce de Dieu afin de réagir correctement aux diverses circonstances de ma vie. Il y a des circonstances difficiles dans la vie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Voilà. Difficile, il faut prier. Quelqu'un est-il dans la joie qui chante un cantique? Parce qu'il est deux dans la vie, mes amis. La vie est dure pour le chrétien. On monte le courant comme un saumon. C'est dur. C'est un combat spirituel. Puis on doit finir comme Paul a fini en disant, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. » On est dans cette course à obstacles. Et on doit implorer la grâce de Dieu. Que la grâce de Dieu nous aide, les bontés de Dieu envers nous. Reconnaissons les bontés de Dieu envers nous. Quatrièmement, implorer la grâce de Dieu afin de me soumettre à Dieu inconditionnellement. Peu importe qui je suis. Pourquoi me soumettre à Dieu? Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Notre ombrage nous suit tout le temps. Je l'ai mis là, j'ai bien aimé le petit chat. Notre ombrage nous suit partout où ce qu'on va. Qui on est nous suit partout où ce qu'on va. Souvenons-nous à quelque part que Dieu résiste aux orgueilleux, fait grâce aux hommes. On est tous des orgueilleux jusqu'à un certain point. On est tous. Il y a un homme qui me dit une fois, un grand homme de Dieu me dit, si tu veux savoir si quelqu'un est spirituel, t'as rien qu'à lui demander s'il est orgueilleux. Puis s'il dit non, c'est un orgueilleux. C'est un piège, ça, hein? Cinquième, une invitation. Et je termine avec ça. C'est vrai, c'est que je termine pour le vrai. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Dieu est gracieux, vous savez. Il répond aux prières, mais selon sa volonté. Selon ce qui nous convient vraiment. Et s'approcher de la grâce de Dieu, c'est important. Devant le trône, à la table du roi des rois. Mephibosheth était à la table du roi David, et nous, nous avons le privilège d'être à la table du roi des rois. On va prier. Seigneur Dieu, merci pour ta parole ce matin. Que tu puisses nous aider, Seigneur Dieu, à être reconnaissants, Seigneur Dieu. Des cœurs remplis d'actions de grâce. Reconnaissant tout ce que tu as fait pour nous. Reconnaissant qui tu es. Reconnaissant, Seigneur Dieu, le grand privilège que nous avons de voir clair et de discerner ta grâce dans nos vies et dans la vie de ceux qu'on aime alentour de nous. De savoir que tu es un Dieu gracieux qui garde cette planète vivante, cette planète qui est encore en train de chercher qui elle est. Mais toi, un jour, Seigneur Dieu, tu vas revenir régler tout cela. Mais en attendant, fais de nous des hommes et des femmes de Dieu à la gloire de ton nom. Amen.